OK, on continue notre étude qu'on avait débutée sur les livres de Josué. On était rendu à Josué au chapitre 12. Alors, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait terminé tous les chapitres. Alors, Josué 12, les versets 1 à 24. Le livre de Josué se divise en deux parties de chacune 12 chapitres. La première, que nous terminons ici, retrace la conquête de Canaan par Israël. La seconde, qui va du chapitre 13 à 24, décrit principalement le partage du pays entre les tribus. La conclusion de la première partie, c'est « Et le pays se reposa de la guerre ». On lit ça au chapitre 11, verset 23. Et elle est suivie du chapitre 12 et de la longue énumération des rois abattus. Deux l'ont été de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og. 31 ont été vaincus dans le pays même. Il est encourageant de voir Dieu faire lui-même cette récapitulation. C'est la preuve qu'il n'a pas perdu le souvenir d'aucune victoire que nous avons apportée avec le Seigneur, et c'est ce que chacune représente d'efforts et de renoncements. Courage donc, soldats de Jésus-Christ. Dans nos combats, un souverain arbitre marque les points sans erreur possible. Le roi de Hébron 1, le roi de Jarmuth 1, le roi de Lachis 1. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être chacun son poste de fidèles combattants. Le moment viendra bientôt de déposer les armes pour goûter près de Jésus le repos céleste. Oui, qu'il nous soit permis de dire alors, avec l'apôtre, « J'ai combattu le bon combat » et de recevoir la couronne promise à celui qui vaincra. Alors, on tombe dans la deuxième section, la division des chapitres 13 à 19. Donc, chapitre 13, c'est vraiment, on arrive dans la division du chapitre de Canaan, donc on pourrait dire que c'est la foi récompensée. Josué, chapitre 13, versets 1 à 14. L'Éternel rappelle à Josué qu'il reste un très grand pays à posséder. Les frontières lui avaient été indiquées. Elles sont faciles à retenir. Au sud, un grand désert. Au nord, une grande montagne, le Liban. À l'orient, un grand fleuve, l'Euphrate. Enfin, au couchant, une grande mer, la Méditerranée. Le pays à occuper par la foi a également ses frontières qui sont celles du monde telles qu'il se présente pour nous, arides, sans fruits pour Dieu, plein d'orgueil et de vanité, prospères et affairés, impétueux, sans cesse agités comme la mer. Gardons-nous, chers enfants de Dieu, de franchir ces frontières. Beaucoup l'ont fait par entraînement ou simple curiosité, et la plupart n'en sont jamais revenus. Par contre, il reste à l'intérieur des limites un très grand pays à posséder. Les trésors inépuisables de la parole, les richesses insondables de Christ attendent que nous nous en emparions, afin que, selon la prière de l'apôtre, nous soyons capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ. Chrétiens, voilà les dimensions infinies de notre héritage en lui. Maintenant, on va regarder encore chapitre 13 de Josué, versets 15 à 33. Les fils de Ruben, de Gad et de la tribu, demi-tribu de Manassé ont reçu leur part d'héritage avant tous leurs frères. Cette part, nous nous souvenons qu'ils l'ont eux-mêmes choisi, sans attendre que Dieu le leur attribue. Importante leçon pour chacun de nous. Que de fois, comme eux, nous n'avons pas su attendre. Nous nous sommes laissés conduire par les circonstances. Par exemple, la région de Bazan et de Galaad convenait à l'élevage et ses tribus avaient des troupeaux. Nous avons choisi la solution la plus facile, ou bien par prudence, la première qui se présentait alors qu'avec un peu de patience, nous aurions obtenu une part meilleure, celle que Dieu avait préparée pour nous. Les tribus nous apprennent encore une autre leçon. En choisissant les premiers, ce qui leur paraissait le meilleur, un peu comme Lot avec Abraham dans Genèse 13, les Rubénites et les Gadites montrent leur égoïsme vis-à-vis de leurs frères. Moi d'abord. En effet, ils se sont servis les premiers et leur portion d'héritage, ils la reçoivent avant tous les autres. Mais elle est loin d'être la meilleure comme ils l'avaient pensé. Les premiers deviendront les derniers. Ainsi, le meilleur, c'est toujours ce que Dieu nous donne, même s'il nous faut l'attendre un peu. Là, on va voir le chapitre 14, versets 1 à 15. L'Éternel avait désigné par leur nom ceux qui auraient la charge de partager le pays entre les tribus. Les fils de Juda s'avancent à présent vers eux pour recevoir leur lot, et Caleb prend la parole. Pendant plus de 40 ans, il a attendu ce moment. Sans se plaindre d'un châtiment qu'il n'a pas mérité personnellement, il a marché dans le désert avec le peuple, soutenu par son espérance. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu et maintenant les rappelle à Josué. « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé » au verset 12. Exemple magnifique de la persévérance de la foi. Mais il y a encore autre chose à admirer chez cet homme. « Ma force, dit-il, n'a pas changé. À 85 ans, je suis aussi fort qu'à 40. » Quel était son secret? À 85 ans, je suis aussi fort qu'à 40. Quel était son secret? Ésaïe 40, verset 31 nous révèle « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils marcheront et ne se lasseront point. » Par cette force divine, Caleb, un vieillard par l'âge, un jeune homme par la vigueur, va maintenant s'emparer d'Hébron et abattre la force humaine des fameux Anakim, ces géants qui avaient autrefois tant effrayé le peuple. Oui, bienheureux l'homme dont la force est en toi, il marche de force en force. On lit dans le psaume 84, les versets 5 et 7. Maintenant, le chapitre 15, versets 1 à 19. Après l'attribution du lot de Juda, voici un autre exemple de foi hardie et courageuse. Et c'est de nouveau dans la famille de Caleb que nous la trouvons. Auprès de celle-ci, de celui-ci, c'est-à-dire, Othniel, son neveu, et Aksa, sa fille, avaient été à bonne école. Jour après jour, pendant de longues années du désert, ils avaient pu l'entendre appliquant l'instruction de Deutéronome, chapitre 6, verset 7. Leur parler du bon pays qu'il avait visité, du fruit miraculeux qu'il en avait rapporté. Jour après jour aussi, ils avaient pu le voir, fidèle dans sa marche persévérante, puis dans ses combats pour la pleine possession du pays. De telles paroles, un tel exemple ont porté leurs fruits. Ce pays de Canaan, centre des pensées et des afflictions de leur père Othniel et Aksa, ont eux-mêmes appris peu à peu à l'aimer. Et le moment venu, la foi apparaît. Celle d'Othniel s'empare de Kiriath Sefer, celle d'Aksa réclame une portion supplémentaire de la terre de Canaan. Quelle joie pour Caleb qui avait dit à Josué, « Donne-moi cette montagne » au chapitre 14, verset 12. D'entendre sa fille lui réclamer, « Donne-moi, donne-moi encore. » Alors, avec une telle préparation et une femme digne de lui, Othniel se qualifiera pour exercer plus tard les fonctions de juge en Israël. Josué, chapitre 15, les versets 20 jusqu'à 63 et les 10 premiers versets du chapitre 16. Le moment tant attendu est arrivé où Israël peut prendre possession de son héritage. Juda est le premier à recevoir son lot, détaillé ville par ville, comme pour souligner l'intérêt que l'Éternel attache à chaque parcelle de ce pays qui est le sien. Ayons, nous aussi, une vision toujours plus large du peuple de Dieu, en particulier pour l'embrasser dans nos prières. Hélas, à la fin de chaque délimitation, nous trouvons aussi une restriction, un « mais ». La victoire n'est pas complète. Judas ne parvient pas à déposséder les Jébusiens, comme on le voit dans le verset 63. Jusqu'au règne de David, ceux-ci conserveront une place forte à Jérusalem, la forteresse de Sion. Éphraïm n'est pas davantage capable de déposséder le Cananéen de Gézer. Asservi aux tribus, ces vaincus ne sont-ils pas bien offensifs? Au contraire, comme l'a annoncé Moïse, ils vont constituer des pièges au milieu d'Israël, entraînant celui-ci au mal et à l'idolâtrie. Qu'en est-il de notre cœur, chers enfants de Dieu? Est-ce que nous n'y tolérons pas certains ennemis qui ne nous semblent pas dangereux? Nous sommes habitués à leur présence, il nous en coûterait de les juger. Que le Seigneur nous en donne le courage pour que lui seul soit à régner sur notre cœur. Et on va tomber au chapitre 17, versets 1 à 18. Manassé reçoit son lot, et aussitôt reparaissent les cinq filles de Tselophkhad avec leur belle ténacité. Se réclamant du commandement de l'Éternel à Moïse, elles revendiquent l'héritage longtemps attendu. La moitié de leur tribu a opté pour l'autre côté du Jourdain, mais pour elles, la question ne se pose pas. C'est en Canaan, au milieu de leurs frères, qu'est leur héritage. Et rappelons à cette occasion que si les femmes chrétiennes ne sont pas appelées à certains services publics, tels que la prédication, leur part céleste, leur jouissance des bénédictions d'en haut, ne sont pas inférieures à celles de leurs frères. D'une manière générale, remarquons avec quel soin l'Éternel trace les limites de chaque tribu. L'une après l'autre, chacune reçoit son lot, avec en premier lieu l'indication du contour, puis la liste des villes qui s'y trouvent. Dieu attend des siens en retour de l'empressement pour se les approprier. Or, voyez Éphraïm, sa montagne ne lui plaît pas. Elle lui demande trop d'efforts. Il réclame un autre lot, non par foi, mais par paresse. Que de pertes nous faisons, comme cette tribu, par manque d'énergie, notamment dans le domaine qui nous est toujours dévolu, celui de la prière. Josué 18, versets 1 à 11, et Josué 19, 49 à 51. Sept tribus n'ont pas encore reçu leur héritage. Josué fait procéder alors à un relèvement cadastral du pays et distribue les différents lots par tirage au sort. Naturellement, Dieu dirige le sort selon sa volonté. Le hasard n'existe pas et un chrétien ne devrait jamais invoquer chance ou la malchance. Dans le psaume 16, nous entendons quelqu'un, par avance Christ lui-même, qui déclare « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est échu. » Exerçons-nous à découvrir la beauté et la richesse de tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Et soyons reconnaissants. Josué, qui appartient à la tribu d'Éphraïm, donne l'exemple à ses frères en choisissant son héritage dans la montagne qu'eux avaient dédaigné. Et cet héritage porte un nom significatif, Timnath Sérakh, qui veut dire « portion abondante ». Les longues listes de villes nous rappellent que nous, chrétiens des nations, étions sans droit de cité en Israël. Mais maintenant, approchés par le sang du Christ, nous sommes devenus concitoyens des saints, comme on le lit dans Éphésiens chapitre 2, versets 12, 13 et 19. Notre bourgeoisie est dans les cieux, comme on peut le lire dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Bientôt, nous habiterons la cité céleste. Dans le chapitre 20, on a vraiment les cités de refuge. Les cités de refuge, c'est vraiment l'idée de la foi protégée par la miséricorde de Dieu. Josué chapitre 20, versets 1 à 9 et 21, versets 1 à 3. De l'autre côté du Jourdain, trois villes de refuge pour l'homicide ont été établies par Moïse. Trois autres le sont à présent dans le pays même, au nord, au centre et au midi. Chacune d'elles est située sur une montagne, nous rappelant cette parole du Seigneur Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, vue de tous et en particulier du malheureux coupable qui courait pour s'y réfugier. La ville de refuge était un rappel constant de la grâce de Dieu. La première de ces villes, Kadesh, se trouvait en Galilée, contrée chère au cœur du croyant. C'est là que Jésus de Nazareth a vécu 30 ans, là qu'il a servi, guéri, enseigné les disciples et les foules. Sichem, en Israël, est souvent identifié avec cette ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph, son fils, et de ce fait incluse dans le lot d'Éphraïm, fils de Joseph. Chapitre 24, verset 32. Elle aussi évoque le divin voyageur, lassé du chemin, qui s'assit un jour auprès de la fontaine. Enfin, Hébron, citadelle de la mort vaincue, qui devient lieu d'asile, haute retraite. Chapitre 21. On a vraiment la portion des Lévites, la foi qui est préservée, leur entrée dans le tabernacle et l'enseignement de la loi. Alors, le chapitre 21 est consacré au lot des Lévites. 48 villes leur sont attribuées, réparties sur l'héritage des autres tribus. Alors, on voit dans Josué 21, versets 41-45, et dans chapitre 22, versets 1 à 6. En contraste avec les Lévites dont l'Israël était la portion, nous retrouvons les deux tribus ennemies. Elles sont fermement attachées à leurs biens terrestres. Comblées des trésors pris à l'ennemi, bénis par Josué, il semble que tout aille bien pour ces hommes de Ruben, de Gad et de Manassé. Eh bien non, ils vont faire une grande perte en repassant le Jourdain, jadis traversé de manière si remarquable. L'arche, cette fois, n'est plus avec eux pour le passage. Elle demeure en Canaan. Vous direz peut-être que devaient-ils faire? Leur famille se trouvait de l'autre côté. Le verset 19 du chapitre 22 prouve qu'il était encore temps de les faire venir dans le pays. D'ailleurs, le Seigneur Jésus ne dit-il pas, « Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Hélas, beaucoup de jeunes chrétiens, après avoir bien commencé, bien combattu, se sont ensuite éloignés du Seigneur, ainsi que le reste du peuple de Dieu. Et souvent, c'est à cause du foyer qu'ils ont fondé selon leurs pensées, sans respect des droits de Dieu. Il nous semble entendre la question attristée du Seigneur à ses disciples. « Et vous, voulez-vous vous aussi vous en aller ?» Comme on le lit dans Jean, chapitre 6, verset 67. Lecteur, s'il vous posait aujourd'hui la même question, répondriez-vous comme son disciple Pierre? Alors, dans le chapitre 22, on a vraiment l'autel du témoignage qui est vraiment l'image de la foi unissante et la réelle unité qui est discernée en Christ. Donc, chapitre 22, versets 7 à 20. Partagez le butin avec vos frères, enjoint Josué à ceux qui s'en vont. Qu'il s'agisse de vérité biblique ou d'expression chrétienne, le Seigneur nous invite à faire part à d'autres des richesses spirituelles amassées dans le pays de la promesse. De même que ces hommes ont pu raconter à leur famille la traversée mémorable du Jourdain et les glorieuses victoires de Josué, un enfant de Dieu parlera volontiers des merveilles accomplies par lui, par le Seigneur, ou découvertes dans sa parole. Au moment de se séparer, les guerriers de Ruben, Gad et Manassé dressent sur la rive du Jourdain un autel de grande apparence. Leurs frères des autres tribus s'inquiètent aussitôt, prêts à intervenir. Que signifie cet acte? Un défi à l'Éternel? Une proclamation d'indépendance? Quoi qu'il en soit, Voilà une première difficulté qui n'aura pas été soulevée si ces tribus étaient entrées en Canaan. L'enquête est conduite par Phinée, sacrificateur qui, dans une autre heure critique de l'histoire du peuple, a fait la preuve de son zèle. Jaloux de la jalousie de l'Éternel, il joint l'amour pour Dieu à l'amour pour ses frères. Deux sentiments qui sont d'ailleurs inséparables. On va continuer avec le chapitre 22, versets 31 à 34. Les fils de Ruben, de Gad et de Manassé s'expliquent sur leurs intentions et leur sincérité est reconnue par leurs frères. Mais à quoi bon cet autel imposant? N'y avait-il pas déjà près du Jourdain un monument autrement représentatif, le monceau de 12 pierres, symbole de l'unité du peuple dans sa position céleste? Mais précisément, les deux tribus ennemies ont perdu, comme tant de chrétiens, la pleine jouissance de leurs privilèges. Dans la chrétienté ont été édifiés beaucoup d'autels qui ont une grande apparence, échafaudés par l'imagination des hommes. Au lieu de témoigner de l'unité de l'Église, il proclame plutôt son morcellement. Et la légitime indignation des 9 tribus ennemies nous montre combien nous avons à prendre au sérieux la division du peuple de Dieu. Ériger et mettre en avant de grands principes, même s'ils sont conformes à l'Écriture, ne saura remplacer la réalité de la jouissance du pays. Le croyant qui a fait l'expérience de celle-ci n'est pas toujours en mesure de donner aux autres beaucoup d'explications. Mais il peut les inviter. Venez et voyez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, dit l'apôtre Pierre, duquel vous rapprochant, vous vous êtes édifié une maison spirituelle. Alors, on a les chapitres 23 et 24. Je pense qu'on va terminer à voir, parce qu'il nous reste juste trois pages. On va terminer ce soir. Alors, chapitre 23 et 24, les adieux de Josué, on pourrait dire que c'est la foi poursuivie par l'adhérence à la parole, la séparation, l'attachement à Dieu et la veille sur son âme. Josué, chapitre 23. À son tour, Josué termine sa carrière. « Fortifiez-vous beaucoup pour garder, pour pratiquer tout ce qui est écrit, dit-il au chef du peuple. » C'était la parole que l'Éternel lui avait dite au commencement. Ce que Moïse avait maintes fois répété. Et c'est encore aujourd'hui l'enseignement qui nous convient. Bien des personnes trouvent l'Évangile vieilli, démodé. Elles ont des oreilles qui leur démangent pour entendre des nouveautés. Remercions le Seigneur de nous avoir donné des serviteurs qui ne se lassent pas de répéter les mêmes vérités et les mêmes exhortations. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, affirme Paul aux Philippiens, et c'est votre sûreté, comme on le lit dans Philippiens chapitre 3, verset 1. Ne nous lassons donc pas, nous, de les écouter. Faire mention des dieux des nations est un premier pas qui nous amène à jurer par eux, puis à les servir, enfin à se prosterner devant eux. C'est pourquoi l'Épître aux Éphésiens nous enjoint de ne pas même nommer les choses impures, folles et malséantes du monde comme il convient à des saints. Peut-être ne prenons pas toujours assez soin de notre langage, que ce dernier nous fasse reconnaître comme disciples de Jésus. Chapitre 23, versets 12 à 16, et chapitre 24, versets 1 à 5. Par le bouche de Josué, l'Éternel prévient les chefs du peuple des conséquences désastreuses d'un retour en arrière. Plusieurs images suggèrent au verset 13 les dangers qui menacent inévitablement ceux qui mondanisent. Le filet commence par tomber, le piège attrape et retient, le fouet est l'emblème de la servitude. Enfin, les épines dans les yeux, c'est l'aveuglement cruel. Ainsi, Samson, pris au piège, perdra successivement avec son Nazaréat ses forces, sa liberté, sa vue et sa vie. Au chapitre 24, Josué convoque tout Israël et commence par rappeler les grands moments de son histoire. Il est pour cela nécessaire qu'il remonte à un lointain passé, non seulement par une référence flatteuse à Abraham, dont Israël se réclamait volontiers, mais jusqu'au père de celui-ci, Térakh, qui avait servi les idoles. Josué veut leur dire par là, l'idolâtrie n'est pas seulement le propre des populations arriérées qui vous entourent. Elle est dans votre nature. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Encore une fois, laissons parler l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Vous étiez morts dans vos fautes et dans les péchés, dans vos péchés, dans lesquels vous aviez marché autrefois, selon le train de ce monde, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Maintenant, chapitre 24, versets 6 à 15. Si nous nous sommes reconnus parmi ces misérables trouvés au-delà du fleuve, servant les idoles de ce monde, relisons ces versets de Éphésiens, chapitre 2, verset 4, et admirons ce qu'a fait pour les siens le Dieu qui est riche en miséricorde. Nous sonderons les profondeurs de la grâce de Dieu dans la mesure où nous comprendrons à quel point nous en avons besoin. Les adieux Josué au peuple nous font penser à ceux de Paul, aux anciens de l'Assemblée d'Éphèse, comme on peut le lire dans Actes 20, verset 17. Le fidèle apôtre rappelle lui aussi la grâce et la puissance de Dieu qui donne un héritage à tous les sanctifiés. Il souligne la responsabilité qui s'ensuit et exhorte à prendre garde, à veiller. Et il peut invoquer son propre exemple. Il a servi le Seigneur et il n'a d'autre désir que d'achever ce service reçu de lui. C'est aussi la conclusion de Josué. Son ministère paraît terminé. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », déclare-t-il, pourtant dans une inébranlable décision de cœur. « Ce « moi et ma maison, nous servirons » ne répond-il pas d'une manière toute naturelle au « Tu seras sauvé, toi et ta maison » d'Actes 16, 31. Le croyant et les siens sont sauvés pour servir. Imitons Stéphanas et sa famille qui s'étaient voués au service des saints, comme on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. Et maintenant, amis lecteurs, que vous reste-t-il à faire? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir et faites le bon choix. Et dernier petit passage, à l'exhortation, donc Josué 24, verset 16 à 33, à l'exhortation de Josué, à l'exemple qu'il nous donne personnellement, Israël répond par une prompte profession de foi. Il s'engage à servir l'Éternel, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Le verset 16 montre leur aveuglement, car les dieux étrangers sont toujours là, comme on peut le voir dans le verset 23, en sorte que Josué est obligé de leur dire, tant qu'il en est ainsi, vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Nul ne peut servir deux maîtres, confirme le Seigneur dans Luc 16, verset 13. Les bonnes dispositions d'Israël dureront tant qu'il y aura de pieux conducteurs. Josué, Éléazar, fini. C'est l'occasion de nous interroger une fois encore. Sommes-nous attachés à Christ par une foi vivante et personnelle? Ou bien sommes-nous contentés de suivre par entraînement et imitation ceux qui nous ont enseigné? En ce cas, que ferons-nous quand ils nous auront quittés? Josué termine sa course. Fidèle conducteur, il a marché dans le désert, la marche de la foi. Il a combattu ensuite le combat de la foi. Nous avons reconnu en lui quelques traits du grand conducteur, du vainqueur du monde, du chef et consommateur de la foi. Demandons à Dieu qu'il nous apprenne, dans la marche comme dans le combat, à fixer les yeux sur Jésus. Alors, les applications qu'on tire de l'ensemble de tout ce qu'on a vu depuis le début. Alors, retenons et appliquons à notre vie et à notre marche quotidienne les nombreuses leçons du merveilleux livre de Josué. La première, la garantie de la foi, qui est la parole de Dieu. La prudence de la foi, qui est l'utilisation de moyens et l'action. La crise de la foi, qui est de prendre conscience de notre mort en Christ. Le témoin de la foi, la fidélité et la puissance de Dieu. L'émondage de la foi, donc se dépouiller des œuvres de la chair. La foi triomphante, Donc, la chute de nos ennemis par l'obéissance aux directives divines. La foi invalidée lorsque nous désobéissons. La foi revalidée lorsque nous obéissons. La foi compromise lorsque nous ne consultons pas l'Éternel. La foi victorieuse lorsque nous faisons confiance à Dieu dans nos combats. La foi récompensée lorsque Dieu nous donne les fruits de la victoire. La foi protégée lorsque Dieu nous fait miséricorde pour nos erreurs, nos faiblesses et nos manquements. La foi préservée par les enseignements de la parole de Dieu. La foi unissante lorsque celle-ci est réelle et basée sur la vérité. La foi poursuivie lorsque nos leaders nous quittent en continuant la marche avec Dieu. Que le Seigneur nous apprenne à lire les livres de l'Ancien Testament en retenant les exemples et les instructions qu'ils contiennent. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.